Merci beaucoup. Le gouvernement du Québec se donne des objectifs ambitieux. Faire un virage numérique d'ici 4 ans pour l'État québécois. On en parle avec le ministre qui est responsable du dossier, Éric Kerr. Monsieur Kerr, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
Écoutez, on veut vous croire. On est convaincu que vous avez la volonté de le faire. Mais vous comprendrez qu'on a un dossier, disons, pas très, très reluisant en matière informatique. On est méfiant, inquiet et sceptique.
Je comprends, puis je vous dirais que quand j'étais dans l'opposition, j'ai contribué à ça.
Oui.
Donc maintenant, j'ai une double charge, c'est-à-dire de s'assurer qu'effectivement qu'on atteint nos objectifs et, je dirais, recrédibiliser l'informatique et la capacité du gouvernement à livrer des projets en technologie de l'information. Et j'en suis extrêmement conscient, M. Arcand, puis j'ai l'intention de livrer la marchandise.
OK, mais je reprends l'exemple d'hier qui est cité dans Le Devoir. Vous dites que le fax va disparaître en 2023, puis du côté du ministre Carman, on n'est pas sûr. Ça part mal, là.
Ben, écoutez, moi, je suis très conscient, M. Arcand, qu'on va bousculer des gens, qu'on va bousculer des façons de faire. Je le sais. Et j'ai dit, et je répète, mon défi, il n'est pas technologique. Parce que la technologie peut nous amener beaucoup plus loin qu'on peut même l'imaginer déjà présentement. Mon défi, c'est de gérer le changement. Et ça, c'est probablement le principal défi parce que la transformation numérique, il ne faut pas oublier que c'est des humains. Ça implique des humains. Ça implique des façons de faire. Ça implique des habitudes. Et ça... c'est ça qui est le plus complexe à changer.
Mais en même temps,
on est en train de mettre en place et on prend les moyens pour changer ça. Puis la première chose à faire, c'est de faire la démonstration à tout le monde que non seulement c'est possible, mais ça va se faire à notre plus grand bénéfice.
OK, mais il n'y a personne qui doute de l'efficacité souhaitée, là, que ça devienne plus convivial, plus facile à utiliser, moins de paperasse. On comprend là, que le citoyen en tire un avantage. Mais l'expérience... Que j'ai vu dans les dernières années, puis quand vous étiez dans l'opposition, vous l'avez souligné à plusieurs reprises, moi, j'ai vu des gestionnaires présenter des projets, refaire le projet, re-refaire le projet. Les consultants en informatique se tapaient dans les mains en disant « ça fait des heures à facturer ». J'ai vu un hôpital développer ou un système qui n'était pas compatible avec un autre hôpital. Comment vous allez faire pour empêcher ça?
OK. Bon, la première chose, c'était de mettre en place une stratégie qui implique tout le monde. Et donc, mais non pas d'avoir une stratégie, par exemple, juste pour la culture, juste pour l'économie, c'est de se donner des objectifs communs puis de mesurer ces objectifs-là. Il faut qu'on commence à mesurer si on est bon ou si on n'est pas bon. Puis on s'est donné ces objectifs-là et on s'est donné ces cibles-là à atteindre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut rebâtir notre expertise à l'interne. On a été trop vulnérables aux consultants par le passé, M. Arcand, et justement des gens qui n'avaient peut-être pas à cœur les intérêts de l'État. Donc là, on a une entente avec l'ENAP pour s'assurer que nos gestionnaires vont recevoir une formation pour devenir des gestionnaires du changement, comme je vous disais préalablement. Il faut qu'on soit capable d'amener cette culture-là numérique dans la fonction publique. Puis ça commence par nos plus hauts dirigeants. Et ensuite, on a 14 000 personnes qui travaillent en technologie de l'information au gouvernement du Québec, mais on est conscient qu'il y a une mise à jour à faire de leurs connaissances, de leur capacité justement à entrer dans les nouvelles technologies, dans les nouvelles façons de gérer les projets aussi. Parce que je pense que maintenant, il y a des façons de faire dans la gestion de projets qui justement sont issues des apprentissages du passé, à savoir pourquoi ces projets-là, ces grands projets-là surtout, puis c'est pas spécifique à l'administration publique, quand même dans l'entreprise privée, là, Desjardins a connu sa part de problème dans la gestion des grands projets parce que on avait des mauvaises méthodes de travail. Maintenant, il y en a des nouvelles qui sont beaucoup plus efficaces, qui ont démontré leur efficacité. Faut les enseigner à notre monde, faut les intégrer à nos façons de faire et surtout, il faut s'émanciper de cette dépendance à la consultation externe qui nous a coûté très cher.
OK, mais là, j'ai de la misère à vous suivre sur un point. Vous me dites très clairement que vous voulez ramener l'expertise au gouvernement pour que les décisions se prennent par des gens qui ont à cœur l'intérêt de l'État. Puis en même temps, vous voulez donner aux privés comme Amazon les données des citoyens du Québec. Quel est l'intérêt de l'entreprise privée?
Bon. Me permettez-vous de corriger quelque chose tout de suite, là, que j'entends dans l'espace public, puis j'accepte pas ça. On ne va donner nos données à personne. Le gouvernement du Québec va rester le propriétaire de ces données, il va garder le contrôle de ces données. Maintenant, Ce que je vous dis, c'est qu'on peut avoir une expertise en info nuagique. Mettons, c'est un bon exemple. On va prendre celui-là. On peut développer notre expertise en info nuagique. On peut devenir des experts en info nuagique. Maintenant, est-ce que financièrement, on a intérêt à être des opérateurs? Et c'est ça la différence. Alors, juste pour vous donner un ordre de grandeur, M. Arcan, là, on va consolider sur 457, là, la phase 1 du projet, on va consolider 120 premiers CTI de l'administration publique. Si on décidait de conserver à l'interne 80 % de nos données puis aller 20 % à l'externe, c'est un projet de 275 millions. Si on garde à l'interne 20 % de nos données les plus névralgiques puis on va à l'externe pour 80 %, c'est un projet de 150 millions avec 26 millions de frais de contingence. Donc, on pourrait même être en deçà de ces montants-là.
OK, mais la question très claire qui découle de ça, là, oui. Est-ce que, hypothèse, c'est Amazon, est-ce que Amazon va garder les données, donc, ou si Amazon va avoir un accès aux données?
Non. Amazon va stocker les données. Nos ministères et Amazon va répondre à des... prenons Amazon, mais on s'entend que ce que je dis là, c'est bon pour n'importe qui va se qualifier comme fournisseur d'infos nuagiques. OK, on s'entend là-dessus. Bon. Alors, ils devront se qualifier selon des critères de sécurité qui sont soit le ISO 27001, soit la norme SOC 2, type 2. Donc ça, c'est des normes qui nous permettent de s'assurer que le fournisseur de services a des procédures dans la façon de stocker les données qui, justement, font en sorte qu'il ne va pas aller les tripoter, qu'elles sont sécuritaires, qu'elles sont intègres, qu'elles sont confidentielles, qu'elles sont accessibles, etc., etc. Ça, c'est... Ensuite, contractuellement, on va aussi s'assurer que les ministères et organismes qui vont signer des ententes avec un fournisseur de services vont encrypter les données et seront les seuls détenteurs de la clé de désencryption. Donc, même si cette entreprise-là, quelle qu'elle soit, était victime d'une cyberattaque et que des données étaient libérées de cette façon-là, ben, les données sont inintelligibles. Elles sont inutilisables parce qu'on n'a pas la clé des encryptions. Mais je vous dirais, M. Arcas, c'est un peu comme on fait affaire avec des banques. Est-ce qu'on pense que les banques vont aller jouer dans nos comptes de banque pour nous voler notre argent?
Non, mais les banques ont accès à nos données et les banques font des profils. La Société des alcools, quand on utilise les cartes, ont notre profil, nous font des propositions. Ce que je veux dire, c'est que pour les entreprises, là, les données, les habitudes, la façon de vivre des Québécois, c'est une valeur.
Vous avez raison. Et c'est pour ça qu'on travaille présentement à mettre en place une politique de protection des données et des renseignements personnels. Puis je vous dirais que... Puis ça, c'est, si vous me permettez, c'est deux sujets qui sont différents mais complémentaires. Donc oui, je pense qu'on peut demander à une entreprise de donner un service d'info nuagique de stockage de données. Maintenant, la société québécoise et le gouvernement du Québec ne peut pas faire l'économie d'une réflexion qui a lieu partout dans le monde. L'univers numérique amène des nouvelles réalités sur nos données, la collecte de nos données et l'utilisation de nos données. Puis je vous dirais que ça touche n'importe quelle société, entreprise, OBNL. Donc oui, il faut se doter d'un cadre réglementaire sur la protection des données et des renseignements personnels. Puis là-dessus, on s'inspire entre autres de ce qui s'est fait en Europe.
Okay.
Puis, oui, il faut revoir notre loi d'accès à l'information, M. Arcan, vous avez raison. Cette loi-là date des années 70. On est en 2019 et même la commission d'accès à l'information nous dit qu'il faut revoir dans l'univers numérique, il faut revoir notre loi d'accès à l'information. C'est des projets sur lesquels on travaille, mais là-dessus, je suis tout à fait à la même place que vous. Moi non plus, je comprends pas pourquoi on me demande mon nom, mon numéro de téléphone puis mon code postal quand j'achète une paire de jeans, là.
OK. Juste parce que le temps file, une dernière question. Vous parlez justement de ces fournisseurs privés. On pouvait lire la semaine dernière qu'il y a des joueurs québécois qui sont pas tout à fait conformes ou qui vont l'être sous peu. Êtes-vous en train de mettre de côté des entreprises québécoises par un manque de souplesse?
Pas du tout. Mais écoutez, c'est un peu paradoxal parce que votre précédente question était sur la sécurité des données. Et là, nous, on vous dit, ben écoutez, on veut pas faire de compromis sur la sécurité des données. Et ce, indépendamment de où est-ce qu'il le siège social du fournisseur. Et c'est un petit peu ça que je vous dis.
Je comprenais que c'était une question de moi avant de l'obtenir. C'est ça ma question.
Oui, non, mais puis la question est légitime, mais ce que je veux dire aux Québécois, c'est qu'on aurait pu n'accepter que la seule norme ISO, qui est une norme très contraignante. On a fait preuve de souplesse parce que la norme SOC 2, type 2, nous donne les mêmes garanties de sécurité, mais dans les moyens, elle est plus souple. Donc ça permet peut-être à plus d'entreprises de se qualifier sur cette norme-là. sans faire de compromis sur le résultat final de la sécurité. Donc, on a aussi étiré la période pour les appels de qualification. Et là, on est en train de réfléchir peut-être à rendre biannuel au moins ou en continu les appels de qualification pour faire en sorte qu'une entreprise, au moment où elle atteint les critères, puisse d'entrée de jeu se qualifier, donc pas attendre la prochaine qualification.
Okay, parfait.
Donc, je pense qu'on fait preuve de souplesse, mais en même temps, je pourrais pas aujourd'hui vous parler puis dire, ben là, on va faire des compromis sur la sécurité, parce que sinon, il faut les faire pour tout le monde, hein. Comprenez bien qu'on peut pas faire ça juste pour une entreprise. Les critères doivent être les mêmes pour tout le monde, puis il y a peut-être des joueurs qu'on veut pas voir apparaître dans le décor, là.
Comme qui?
Ben, c'est des gens qui seraient pas capables, des gens qui s'improvisent là-dedans. Écoutez, moi, je viens du milieu de l'informatique, puis quand il y a une manne, généralement, ça attire ces gens-là qui s'improvisent dans le milieu. Puis c'est la raison pour laquelle on met des critères. C'est pour s'assurer qu'on fait affaire avec des entreprises qui sont matures, des entreprises qui ont des pratiques exemplaires, puis qui vont nous offrir les garanties de sécurité et de performance.
Là, je veux pas. Là, je suis coincé dans le temps, mais je ne peux pas me retenir de vous poser la deuxième question. On ne peut pas dire que les multinationales américaines du monde numérique ont une réputation, ils ont des pratiques respectueuses de la vie privée du monde. Là,
ben, c'est là où il faut faire une distinction entre Facebook de ce monde et les fournisseurs de services de stockage. Moi, je suis d'accord avec vous, là. C'est Facebook, puis je veux dire, je pense que
Non, mais même Amazon, là, je comprends qu'ils ont une multitude d'activités, mais tu sais, pas des joueurs.
Non, mais moi, mais c'est ça. Mais en matière de stockage de données, ouais, c'est une chose. Mais je prends Facebook parce que tout récemment, il y avait un comité parlementaire fédéral, puis M. Zuckerberg a eu un comportement pour le moins questionnable, là. Par rapport à ça. Puis moi, je suis tout à fait d'accord que les États doivent se concerter, les États doivent travailler ensemble pour s'assurer qu'on protège les données de nos concitoyens contre une utilisation qui est extrêmement questionnable. Mais Facebook, c'est un média social, et Instagram de ce monde et autres, c'est des médias sociaux. Les fournisseurs de services en info nuagique, quels qu'ils soient, ben, ils devront, en tout cas, de notre côté à nous, répondre à des critères, justement, ouais, pour s'assurer qu'ils ne sont pas délinquants.
Là, il faut que je vous arrête.
Les services qu'ils donnent sont de qualité et respectent les données du gouvernement du Québec et des citoyens du Québec.
Parfait. Là, il faut vraiment que je vous arrête. Merci d'avoir pris le temps ce matin.
Ça m'a fait plaisir, M. Arcand.
Bonne journée. Éric Kerr, qui est le ministre responsable de la transformation numérique. On va aller retrouver Marc. Les problèmes de ce matin, ça ressemble à quoi?